tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Métamorphose. Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille pour le 6e numéro de Métamorphose. Aujourd'hui, c'est Pascal Henquin, Focus 21, qui va m'accompagner. À la chronique, Emmanuel Chouin. Pour ce 6e numéro consacré au don, au troc, à l'échange, nous recevons Aurélien Sozi et Assia Zouane, co-organisateurs du festival Festidoni, festival sur le don, l'échange et l'entraide. Et Jean Lombard et Marceline Ndinsen du collectif Brouette et compagnie. En janvier 2002, Patrick Vivray, alors conseiller référendaire à la Cour des comptes, remettait à Guy Ascouette, secrétaire d'État à l'économie solidaire, un rapport publié depuis sous le titre « Reconsidérer la richesse ». Ce rapport contient de nombreuses démonstrations extrêmement pertinentes sur l'absurdité de nos modèles économiques. Par exemple, sur le fait que ce qui est considéré comme de la richesse dans la comptabilité nationale, autrement dit le PIB, ne tient pas compte des conditions de production de cette richesse, ni de l'impact sur l'environnement ou sur les relations humaines. C'est un piège mortel, nous dit-il, que de laisser s'imposer des critères qui ignorent les enjeux écologiques et humains et valorisent des activités destructrices dès lors qu'elles sont financièrement rentables. Patrick Vivray insiste également sur le fait que la monnaie n'est plus systématiquement liée à l'échange de biens et encore moins, ça va sans dire, à l'échange de liens sociaux. La monnaie se suffit à elle-même pour créer de la valeur. Valeur totalement virtuelle puisqu'au moment où il écrivait son rapport, la monnaie sonnante et trébuchante et les billets représentaient moins de 15% de la masse monétaire en circulation. Selon lui, la monnaie a de la valeur en elle-même et a ôté en revanche leur valeur aux humains et à la nature qui sont pourtant, par leur échange transformateur, les seules sources réelles de valeur. Nous passons d'un univers où ce qui a vraiment de la valeur n'a pas de prix, pour rentrer dans un autre que nous voyons se mettre en place sous nos yeux, où ce qui n'a pas de prix n'a pas réellement de valeur. Face à ce déficit de sens, des mouvements de plus en plus nombreux se développent pour favoriser les échanges de proximité, troc, don contre don, magasin gratuit, qui permet à la fois de répondre à un contexte économique en tension, mais aussi à un ras-le-bol d'un modèle basé sur le gaspillage et la surconsommation. Ces mouvements en appellent surtout à reconsidérer la richesse et à redonner à la relation un lien social provoqué par l'échange toute la valeur qu'elle mérite. Finalement, on revisite nos classiques et on les remet au goût du jour puisque déjà dans les sociétés traditionnelles, l'économie était encastrée dans les relations sociales, Dixit Polanyi. Et ça permet un petit hommage à Eri De Luca qui écrit que l'avenir du fleuve est à sa source. Pour conclure, une citation puisée dans le rapport de Patrick Vivray, « Le lien est supérieur au bien ». Et pour nous parler de dons et d'échanges, quoi de mieux qu'Aurélien Sozi et Assia Zouane, cheville ouvrière du festival Festidoni.
Bonjour Assia, bonjour Aurélien.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'émission Métamorphose.
Merci.
On s'est connus l'an passé sur la dynamique Alternativa avec Aurélien et puis via le collectif aussi Vélo en Ville dont tu fais partie. Du coup, je me permets de vous tutoyer tous les deux. Voilà. Alors depuis plusieurs mois, un collectif s'est constitué autour de Géraldine Carlier, qui est enseignante dans les quartiers nord, qui a pris pour devise aujourd'hui de travailler moins pour vivre mieux. Géraldine est à l'initiative donc du projet Festidoni. C'est un événement qui est sous forme d'un salon dont la devise est « donner et recevoir au quotidien, pour mieux vivre et moins gaspiller ». Alors Aurélien, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la motivation et je dirais même la philosophie qui est derrière, qui se cache derrière Festidoni à quelques semaines de l'organisation de ce premier salon?
Oui Pascal, alors Festidoni effectivement ça part de Géraldine Carlier qui était à l'éducation nationale et qui s'est mis en disponibilité pendant un an pour se consacrer à ce projet-là. Projet qu'elle porte au niveau professionnel et qu'elle défend dans une terminologie qu'elle appelle tricoteuse de liens sociaux. Et du coup, Festidoni, c'est un peu son point de départ par rapport à ça. C'était d'organiser un événement un peu fédérateur pour inaugurer cette dynamique-là un petit peu transversale. Donc, la base, c'est un concept. Et ensuite, c'est donc un point de départ pour une dynamique. Donc, le concept, tu l'as brièvement introduit, c'est plusieurs choses. C'est notamment que c'est ni gratuit, ni payant, ni du troc. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps à expliquer parce que quand on dit ni gratuit, ni payant, ni du troc, on dit c'est quoi? Du coup, la gratuité, c'est une construction où en fait, quelque part, derrière, il y a un payeur. Quand on dit que l'entrée est gratuite ou que le concert est gratuit, c'est que derrière, il y a quelqu'un qui a payé. Souvent, c'est la collectivité. Et du coup, Fessidoni, c'est pas gratuit. C'est autre chose. C'est pas payant non plus, du coup, parce que derrière, il n'y a pas de payeur. Pardon. Et c'est pas du troc, puisque c'est, le troc se construit dans un échange un peu de don contre don d'une personne face à une autre. Typiquement, le cadeau de Noël, c'est la famille et puis le don contre don. Alors que Fessidoni s'envisage plutôt dans une communauté, dans un système un peu sociétal. Je pense notamment à un exemple comme Couchsurfing, où il y a une communauté de gens qui met à disposition des logements et qui dit « viens chez moi ». Et un jour, je bénéficierai aussi de ce service-là, mais pas forcément en don contre don, mais dans un système un petit peu plus vaste. Et ensuite, c'est subvenir à ses besoins. Donc par rapport à ça, l'idée, c'est repenser son rapport au temps, au travail et à l'argent. Et comment on subvient à ses besoins, justement, sans faire appel à une relation économique. Et donc là, on en arrive à la définition un peu de la richesse. Comme le disait Halima dans son introduction, la richesse aujourd'hui, c'est une richesse qui est économique. Un accident de voiture, ça crée de la richesse, alors que derrière, il y a un malheur humain. Et du coup, comment on arrive aujourd'hui à subvenir à ses besoins sans intervention d'argent, sans intervention de marchandisation. Et du coup, de repenser un peu tout ça à une échelle un peu locale, un petit peu finalement informelle, à l'échelle du quartier, à l'échelle de tout ça, et que pour tous les besoins du quotidien, on peut faire sans argent, on peut avoir un logement, on peut avoir des vêtements, on peut avoir à manger, etc. Donc repenser son temps à l'argent et au travail, ça veut dire aussi peut-être diminuer son temps de travail au niveau de l'économie et de l'insertion dans un système économique national et aujourd'hui largement mondialisé. Et du coup, c'est peut-être prendre du temps un peu plus pour soi, pour les autres et finalement pour la planète. Alternativa, c'est ça aussi, c'est que si on accepte d'arrêter de courir après l'argent et après le travail, après la carrière, peut-être qu'on peut se reposer les choses et revenir un petit peu plus à plat. Et voilà, la dernière chose, du coup, toujours sur la richesse, c'est la richesse intérieure. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément qu'une richesse économique à apporter à un pays. C'est une richesse intérieure, c'est des expériences de vie, c'est des témoignages, c'est tout ça. C'est des initiatives que prennent les gens qui ne sont pas connus et qu'on a envie de faire connaître à travers Fessidoni aussi.
D'accord. Et comment allez-vous un petit peu faciliter justement ce don contre don justement cette gratuité? Est-ce que vous avez des outils pour encourager ça et est-ce que c'est aussi partie d'un constat de manque de lien dans nos villes ou d'échanges?
Il y a un constat de manque d'échanges et en face il y a un constat d'abondance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 30% de l'alimentation, quand elle est produite, elle finit au final à la poubelle. On a plus de facilité à jeter qu'à donner. On a tous des poubelles chez nous, c'est beaucoup plus simple de jeter quelque chose dans la poubelle chez soi plutôt que de sortir de chez soi, de trouver un interlocuteur, de trouver l'association, de trouver la structure. Donc ça prend du temps et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de jeter que de donner. Donc ça c'est le constat. Ensuite, l'événement Fessidoni, c'est ce fameux point de départ un peu fédérateur. Ensuite, ça a vocation à se répartir dans les quartiers. Donc il y aura d'autres exemples après, on pourra en parler avec la programmation, mais c'est un peu tout ça, c'est reposer des espaces où c'est pas seulement je laisse et quelqu'un d'autre va venir prendre, c'est aussi à un moment donné à quel moment se fait la rencontre. Parce que à Marseille, on voit dans les quartiers sud, par exemple, les gens jettent des choses mais ils les mettent en dehors de la poubelle. Ils posent une chaise à côté de la poubelle, ils posent un vêtement à côté de la poubelle. Donc d'autres gens vont venir les prendre, mais il n'y a pas la rencontre qui se fait à ce moment-là. Donc il y a une espèce de gêne, à la fois de la personne qui jette, parce que finalement elle jette quand même, elle ne donne pas, même si elle a envie que quelqu'un s'en serve en fait. Du coup, oui, il manque les outils. Alors Fessidoni va présenter certaines initiatives qui existent, mais il y a encore beaucoup à inventer pour essayer pour recréer ce lien-là. Et pour l'instant, on n'a pas de solution miracle. Mmh.
Alors on va en profiter pour appeler une personne qui s'occupe qui est animatrice en fait au centre culturel de la Rouguière, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais on va l'interviewer par téléphone. Mais auparavant, une petite pause musicale avec la chanson Money Money de Héloïse Trio. Donc c'est un vieux vinyle qu'un ami Théo m'a confié il y a quelques années, que j'avais enregistré, qui apporte une certaine détente dans le studio.
Money, 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 money. Money, 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 money. When I money, have any money, I don't have any time. And when I have any time, I don't have any money. Money, 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 money. Money, 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 money.
only one thing he has on his mind. Making love, all night, all day. When you ask him to work, this is what he'll say. When I have any money, I don't have any time. And when I have any time, I don't have any money. Money, 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 money. Money, 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 money. It takes time to fish, time to drink the rum, time for love on each island in the sun. Some has girls by the score, but he wants more. When they talk of marriage, he'll say, what for? And I money, have any money, 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 money. I don't have any time. And when I have any time, I don't have any money. Money, 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 money. Money, 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 money.
Alors, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de temps sur les ondes de Métamorphose. Bonjour Patou, merci de nous avoir rejoints par téléphone. Alors, vous êtes animatrice en charge du secteur adulte sur les thèmes famille et habitat au centre social de la Rouguière, qui est situé dans le 11e arrondissement.
Exactement, vallée de Luvonne.
Et près de la Valentine. Et vous avez mis en place en fait une gratiferia, qui est un néologisme espagnol qui signifie littéralement foire gratuite. Cette gratiferia, vous préférez l'appeler soliferia. Pour quelle raison?
Oui. Ben parce que c'est pour nous, c'est un moment, c'est des moments de solidaire. C'est, on a pris le mot solidaire et on a gardé les juste soliferia, parce que soliferia, parce que pour nous c'était aussi dire aux habitants et aux gens qui passaient par là que peut-être qu'ils avaient beaucoup de choses ou qu'ils n'utilisaient pas et tout. C'est aussi se dire qu'on est dans un mode de fonctionnement où on est à la consommation et que du coup on voulait que les gens se sentent solidaires de son voisin qui n'avait peut-être pas des vêtements ou des meubles ou des objets et qui pouvait les ramener et que du coup la personne qui passait les récupérait. C'était donne ce que tu n'as plus besoin et prends ce que tu as besoin.
Donc voilà. les échanges, ils ont lieu dans un local, en extérieur, c'est
À l'extérieur. Nous, on a préféré, j'ai customisé avec les enfants et les mamans de la cité une cantine où on a mis dedans des objets et puis au fur et à mesure, en fait, les gens viennent, donnent des vêtements, donnent des rideaux, donnent des meubles, pas encore les meubles parce que j'attends de faire notre grande fête de la Rouguière, mais plutôt plein d'autres objets, des lampes et tout, qu'ils n'utilisent pas et que du coup ils se sentent de les donner et que ça serve au moins au lieu de rester dans un cagibi ou rester enfermé, voilà, que ça serve. Et du coup c'était ni d'argent ni rien du tout, se sentir que la personne qui en a besoin puisse le prendre et l'utiliser.
Et les gens du coup à la fin de cette journée, comment se sentent-ils?
Ils se sentent, je pense, bien parce qu'ils ont fait un geste citoyen. C'est aussi se rendre compte que voilà, c'est un geste citoyen. En fait, pour moi, c'était l'idée qu'on se prenne en charge, qu'on en a pas, on a, même si on a ou on n'en a pas, voilà, même si tu n'as qu'un objet à donner, ben, tu le donnes et voilà, et que les autres personnes le récupèrent et que ça fait du baume au cœur de savoir que tu as pu aider ou que tu as pu rendre service à une personne. Comme là, on sait qu'on a une habitante qui va bientôt accoucher. Du coup, dans tous les vêtements qu'on nous avait donnés, on lui a fait un cabas pour le bébé. Mmh. Voilà, ça a servi à ça. Et la personne, elle était très heureuse parce qu'elle a récupéré quelques habits, une poussette et des jouets pour son futur bébé.
D'accord. Et donc, la prochaine soliferia, elle va avoir lieu le 16 et le... Enfin, c'est à la fin du mois.
Alors, le 16 et le 17, on fait une action citoyenne aussi puisqu'on a mis en place une table de quartier. Et en même temps, on a rencontré Requiem de Field, qui est des agriculteurs de notre région ou de toute la France, qui vivent des difficultés pour vivre, qui ont des difficultés à vivre, et que nous, on a des difficultés à avoir des bons légumes et de saison. Ça fait que du coup, on a fait cette rencontre déjà avec eux, puisqu'on a un jardin partagé de 20 parcelles. Mais sur 836 logements, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Du coup, avec eux, ils vont venir. On va redécorer notre quartier. On essaye de trouver des palettes pour mettre des bancs, fleurir le quartier. Et en même temps, le dimanche, il y aura un marché paysan. Alors, à petite échelle, hein, on va pas. Il y aura peut-être pas beaucoup, mais il y aura. Il y aura déjà, et peut-être même je lance cet appel, s'il y a des agriculteurs de notre région près là, qu'ils ont envie de jouer le jeu. Après, ça sera à prix libre. Voilà, c'était ça aussi, c'était que les habitants rencontrent les agriculteurs et puissent parler aussi avec eux de leurs problématiques, comme nous, on puisse parler avec eux de notre problématique, qui était d'accéder à des légumes de saison et de bonne qualité à des prix intéressant.
Par toutes ces actions, vous recréez du lien dans les quartiers. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de ces tables et de ces chaises là qui ont été enlevées par les services municipaux, par la police municipale sur la plaine? Parce que vous parlez tout à l'heure d'installer vous une table de quartier et de ramener, de faire des constructions avec des palettes, avec ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que la mairie va vous laisser faire, vous installer comme ça, puisqu'elle s'oppose à d'autres endroits?
On n'a pas besoin d'avoir une table pour s'installer. Hein. On peut très bien s'installer et s'asseoir notre petit derrière sur le sol. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais ça, c'est inadmissible, parce que du coup, ça ne permet pas aux gens de créer du lien entre eux, et ça ne permet pas peut-être à des gens qui sont sans domicile fixe de pouvoir se poser aussi. C'est dommage, ça coupe le lien du coup entre les gens. Au lieu d'instaurer des lieux où, en beauté, avec des arbres, avec des fleurs, avec tout ça, ça coupe le lien avec les gens. De toute façon, on trouvera bien d'autres moyens de se retrouver. Hein.
Mm-hmm. Et d'ailleurs,
simplement par terre.
Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous co-organisez avec d'autres centres sociaux la troisième édition des quartiers libres. C'est avec le quartier de Valplan.
La Malpassé.
La Viste, la Verrerie. Ouais. La Verrerie, Frévalon, le Panier.
Voilà, ouais. Je dis que pour deux jours, on peut donner de notre temps bénévolement avec plein d'intervenants. Voilà, c'est aussi on prend notre vie en main et on n'a peut-être pas, on a besoin d'argent, ça c'est sûr, les centres sociaux, ils ont besoin d'argent, mais nous aussi, en tant qu'habitants, on peut reprendre notre quartier en main et mener des actions symboliques, voilà, en disant on peut être là ensemble, tous ensemble, qu'on soit du sud, sud-ouest, du sud, du nord, et ils se rencontrent et que des fois on a les mêmes problèmes, mais malheureusement on discute pas assez pour s'en rendre compte. Du coup, c'est une grande manifestation et c'est super parce qu'il va y avoir plein d'activités, plein d'actions. Et moi, je fais une soliferia d'ailleurs ce jour-là.
D'accord.
Voilà.
Bon, donc.
Quartier
libre, c'est le 29 et le 30 avril, à Valplan, à La Rose, et le 16 et le 17 avril, donc la tenue d'un premier marché paysan à prix libre dans le quartier de la Rouguière.
Voilà, avec des actions dans la cité pour fleurir et tout, et nettoyer aussi un chemin qui est laissé un peu à l'abandon, que nos enfants et personnes qui traversent un chemin de traverse, du coup, pour nous, qui coupe pour aller au collège, mais qui est laissé un petit peu à l'abandon, qui est dégueulasse, avec des bouteilles par terre et tout, ben on va faire toute une grande action citoyenne ce jour-là, où on va le nettoyer et demander à tous les gens qui ont envie de participer à ce collectif peuvent venir, et ils sont les bienvenus, parce qu'on n'est pas fermé, c'est pas parce qu'on est dans une cité qu'on est fermé, au contraire, on voudrait nous enclaver, mais nous, on veut sortir. On veut aller à la rencontre d'autres gens, et voilà. Et c'est la soliferia, c'est aussi ça aussi. C'est se dire, deux personnes peuvent se rendre compte que même s'ils n'ont rien à voir à être en commun, peut avoir des attraits aussi à discuter ensemble, même si tu viens d'une autre, façon, tu vis d'une autre façon, ou tu as un travail différent du mien que moi j'ai pas. Voilà, ben on peut s'arrêter, discuter et se trouver des choses en commun ensemble.
Bah merci beaucoup Patou, merci pour votre intervention et puis à bientôt, je viendrai vous voir à la Rouguière. Voilà.
Eh bien ça va, ben, merci. Vous êtes bienvenue, on vous accueillera par terre et avec un bon thé, un bon café avec des gâteaux.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci
à toute l'équipe.
Aussi.
Merci.
Vous écoutez à Métamorphose avec les Gounouilles.
Alors, nous allons continuer, retour sur Festidoni avec Assia. Bonjour Assia.
Bonjour.
Et merci de... Alors, vous êtes en charge, en fait, de la programmation du festival, enfin du salon, pardon,
Festidoni. C'est
pareil, c'est les deux. C'est un mélange de tout ça, de toute manière. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce qu'on va y voir à Festidoni et puis nous donner un petit peu envie justement d'aller naviguer dans les travées, dans les traverses de Festidoni?
Alors, Festidoni, ça sera quoi ce jour-là? Ben, Patou, elle a bien résumé, parce que du coup, Festidoni, c'est donner au recevoir pour créer plus de liens sociaux, quoi. Donc, on est vraiment dans une journée d'expérience où on demande à toutes les personnes, justement, de venir expérimenter le même jour, au même endroit, au centre social de Saint-Antoine, une journée de donner et recevoir. Donc, on va dire que l'idée, c'est de rassembler dans un même lieu, le même jour, toutes les initiatives qui existent déjà. On n'invente pas forcément. On va inventer le côté donner-recevoir, sans échange, sans troc. Mais déjà, à Marseille, dans la région PACA, il y a déjà plein d'initiatives qui sont déjà existantes. Sauf que en général, si je prends l'exemple des terrasses du port en janvier, on a rassemblé les ressourceries et les réparateurs dans une journée qui était géniale. On a vu comment on pourrait réparer pour moins gaspiller, réutiliser des machines à laver, etc. Moi, je sais que je suis revenue de Rennes et c'était pareil. Il y avait un salon sur tout ce qui est les idées créatives. Et ce jour-là, nous, à Festidoni, c'est qu'on propose de rassembler toutes ces thématiques le même jour. C'est-à-dire qu'on peut avoir et des idées créatives, do it yourself, et des ressources, quoi, le recyclodrome, qui vont participer en donnant des choses et des objets pour le grand magasin. Donc voilà, en gros, c'est ça. Après, alors si je détaille la programmation, on est vraiment dans la thématique des 4 R, c'est-à-dire réduire, réparer, réutiliser, recycler. Donc, si je parle de réduire, par exemple, nous, le cœur de Festidoni, ça va être le grand magasin. C'est un grand magasin où on va avoir tous les vêtements, des objets que les gens vont venir déposer dans une zone dedans, à l'entrée du grand centre social de Saint-Antoine. Et on va faire un tri. Et puis après, on va redisposer ça de façon très, très organisée, avec les vêtements d'un côté, comme une ressourcerie. Et puis après, tout autour de cette zone dedans, on va avoir des ateliers de réparation avec Repair Café qui vont venir ce jour-là. Je pense qu'à Marseille, on connaît ce concept. Avec Vincent qui va venir avec un atelier de réparation d'électroménager. Il va ramener sa machine à laver. Il va nous montrer plus ou moins comment on répare une machine à laver. Il va y avoir aussi des bénévoles avec les scouts, justement, pour pouvoir gérer tous ces ateliers. On va pouvoir aussi avoir, par exemple, un cordonnier qui va nous montrer justement comment on répare des chaussures, mais pas que ça. C'est-à-dire que ce cordonnier, il répare des chaussures en cuir qui valent un peu cher. Mais surtout, ce qui intéresse Festidoni, c'est qu'à côté, il récupère des chaussures et il en fait des dons aux ressourceries. Donc, c'est toujours par le biais de donner et recevoir. Voilà, il va y avoir Vélo Sapiens qui vont être présents. Après, il y a tout ce qui est réutilisation. Donc, on va avoir Famétique qui vont venir et qui vont faire un atelier avec les enfants autour du cuir, avec des chutes de cuir, faire des porte-clés, etc. Donc, il y a plein des initiatives comme ça toute la journée autour d'ateliers, d'animations, toujours avec cette idée de réduire l'impact qu'on a sur justement le climat en général et sur ce prisme de donner et recevoir à chaque fois. Toutes les personnes qui seront là ce jour-là vont essayer de donner soit un objet, soit du temps, soit de l'argent. Parce que c'est en complément des euros. Ça ne va pas être une journée qui va être gratuite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des créateurs qui vont venir, qui vont vouloir aussi vendre leur objet, mais à prix coûtant. C'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on ne bannit pas l'argent ce jour-là. C'est qu'on en a besoin aussi dans la vie. Voilà, ça va être un petit peu ça toute la journée. Il y aura des animations du bien-être aussi, parce que réduire l'impact, etc., c'est aussi faire un bien-être humain, Donc il va y avoir du yoga du rire, voilà, des massages qui vont être proposés par des personnes. Et là aussi, les gens, on pourra donner à prix libre ce qu'on veut à ces personnes-là. On pourra donner plus ou donner ce qu'on a en fonction de nos moyens, quoi. En gros, ça va être ça.
D'accord. Et il y a encore de la place pour venir, pour apporter, j'imagine. On peut vous contacter. Comment les gens se mettent en lien avec vous?
Alors, on a un site, justement, une plateforme, un site où on peut justement déposer. On peut s'inscrire avec ce qu'on a envie de donner, d'échanger. On peut nous appeler. Il y a des numéros de téléphone, il y a des contacts. Alors, tout ce qui est dons, objets, on peut récupérer en amont. Donc, il faut nous appeler, nous contacter. Nous, on peut venir. On va s'organiser justement pour récupérer les objets pour la zone de don. Et puis le jour même, eh ben, les gens pourront venir avec tout ce qu'ils ont à donner. Voilà, ça va être un petit peu comme ça. Après,
et on peut donner du temps pour participer en amont, vous aider à organiser.
Eh ben, de toute façon, on fait un grand appel de bénévoles. Ouais. Donc, on a déjà des bénévoles qui vont venir le jour J, comme les scouts ou d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin des gens peut-être qui vont animer. S'il y a des gens qui se sentent d'animer tout ce qui est réutilisation, par exemple, avec des conserves. On va faire des ateliers avec des conserves pour voir ce que ça peut donner. On peut réutiliser des choses. Donc, voilà, ça va être... on a besoin de bénévoles. On a besoin aussi de personnes le jour J. Parce qu'il va y avoir plusieurs manifestations ce jour-là. Donc, vous en aviez parlé, quartier libre. Il y a aussi les petits lieux dans le centre-ville. Donc, les bénévoles vont être dispatchés un petit peu dans toute la ville. Donc, voilà, quoi.
Et alors, hormis l'organisation de tout ce festival, etc., pour vous, c'était un processus, j'imagine, aussi collectif, qui a dû vous apporter aussi beaucoup. Vous avez appris, vous avez échangé. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu sur cette...
Alors moi, je vais parler de mon nom personnel, du coup, ouais, parce que je crois que collectivement, ça nous a vraiment... C'est un processus d'intelligence collective. Donc, en fait, si on ne le fait pas aussi au Parc Chanot, c'est parce que ça nous a pris énormément de temps d'organiser, de co-organiser ce festival avec les humains, quoi. Donc, en intelligence collective, quand il n'y a pas quelqu'un qui dirige tout ça, ben, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps au début à préparer le processus et le concept, etc. Voilà, il y a tout ça. Pour moi, c'était enrichissant humainement, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai remis en question aussi certaines choses. Moi, j'ai beaucoup fait des gratifériats de mon passé, des zones de dons du côté du Var, les jeux, le jardin universel des chances. Donc, j'ai testé tout ça. Et il y a un truc qui a changé avec Festidoni, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas si facile de recevoir. On est vraiment à même de donner. En général, on arrive à donner, que ce soit dans notre boulot, dans notre vie au quotidien, en famille, etc. Mais on a du mal à recevoir. Et c'est ce concept-là de recevoir qui, en général, nous sent... On a l'impression d'être redevable. Donc, du coup, c'est très difficile de recevoir. Donc, je pense que là où moi, j'ai appris à recevoir. C'est la première année où, comme j'ai 3 enfants pour les faire garder, mais j'ai demandé à des gens. Voilà. Et je pense que moi, ça m'a apporté énormément, humainement aussi, avec l'équipe. Donc voilà, moi, c'est un petit peu le côté gratuit que j'ai remis en question un peu par rapport à tout ça.
Bah, merci beaucoup, Assia. Donc, Festidoni aura lieu le dimanche 30 avril au centre social, à côté du centre social de
Plan d'Ao.
Voilà.
C'est au Plan d'Ao.
Vous avez le site web festidoni.fr sur lequel vous pouvez trouver les informations et puis éventuellement proposer votre temps ou d'autres propositions pour vous y investir et participer à ce festival sur le don et l'échange.
Merci à Assia. Merci aussi à Aurélien. Donc, je retiens l'atelier massage, bien entendu. Je serai là. On accueille donc les Brouettes et compagnie, Jean Lombard et Marceline Dinsen. Bonjour Jean et Marceline.
Alors,
Bonjour. Vous êtes membre du collectif Brouettes et compagnie qui est situé dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Le quartier de la Belle de Mai est considéré comme l'un des plus pauvres de France. Le collectif des Brouettes s'attache pourtant à en montrer les richesses. De quoi est-il riche ce quartier, Marceline, de la Belle de Mai?
La richesse du quartier de Belle de Mai est pleine de sentiments humains, déjà. Les relations entre les habitants et la collectivité, que ce soit des gens de Butte ou de Saint-Mauron, quand ils se rencontrent, les échanges... entre tout ce monde et la richesse de savoir aussi donner et ce qui amène à faire les trocs de livres Et c'est vrai que comme tout à l'heure on a écouté que c'est pas facile de recevoir, donc quand on distribue les livres tous les samedis du premier du mois, il y a des gens que quand on propose, ils se retiennent parce qu'ils ont peur que c'est payant, il faut les expliquer que non, ce sont des tracts, c'est gratuit, il faut toute une démarche pour que les gens puissent accepter ces dons. Alors que c'est quelque chose que ça doit se faire naturellement, quoi. Donc, c'est pour cette raison que les habitants de Belle de Mai, bénévolement, ils mettent leur temps au service de toute la population de Belle de Mai. Et le problème, c'est que c'est une habitation de 45 personnes. Mais malheureusement, on n'a pas la bibliothèque, donc...
De 45 000 habitants.
Oui, 45 000 habitants, oui, c'est ça. Et malheureusement, on n'a pas de bibliothèque à proximité de bibliothèque municipale.
Donc, alors, on va y revenir, justement. Jean, le collectif Brouette et compagnie, justement, c'est un groupe d'habitants qui déploie son énergie en faveur de l'échange, du partage et de la convivialité dans le quartier. C'est ce que vient de nous dire Marceline. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce collectif?
Ce collectif est né, en fin de compte, un peu avant 2013, un peu grâce à Radio Grenouille, puisque c'est Radio Grenouille, enfin, qui avait organisé des rassemblements et qui avait créé même un blog pour parler du quartier. Et c'est comme ça que des habitants du quartier se sont retrouvés et qu'après, bon, au fur et à mesure, ben, ils ont eu envie de créer et de participer au mieux vivre dans le quartier, quoi.
Voilà, donc en fait, c'est né d'une initiative de Radio Grenouille, c'est ce que j'ai découvert justement en préparant l'émission, et après le collectif s'est développé, a évolué.
C'est-à-dire que après, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment de 2013, mais bon, après donc Radio Grenouille s'est un peu retiré, on va dire. Et puis nous aussi, on a eu envie de...
S'émanciper.
Voilà. De s'émanciper, puisqu'il y avait aussi, bon, on va quand même la citer, l'association en Italie, qui était aussi, qui faisait partie de la. Voilà, de la. Enfin, qui était là aussi, quoi. Voilà, et c'est qu'après que.
L'association en Italie, vous dites ça?
En Italie, quoi.
Qui était. C'est quoi cette association?
Bah, c'est une association. Je ne vais pas vous dire exactement.
En tout cas, qui est à l'initiative au départ de.
Mais qui fait pas mal de choses.
Du collectif.
Notamment qui travaille en ce moment, enfin entre autres. Un de ses travaux, c'est sur le patrimoine.
Ok. Voilà. Anne Pfister, un autre membre du collectif, a dressé un joli portrait de l'association. Et j'ai donc demandé à Jean s'il voulait bien nous le lire, ce petit texte d'Anne.
Alors, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui n'en pensent pas moins. Il y a nous, un groupe d'habitants et d'usagers du quartier de la Belle de Mai, qui agissons ensemble. Nous nous rencontrons, nous échangeons, nous prononçons, nous rêvons du très Belle de Mai. Regards et réflexions à partager, espace à libérer. Au cours des premiers rendez-vous de notre groupe, je pensais que nous allions nous retrouver, entre habitants et usagers du quartier, pour parler de ce que nous pouvons faire concrètement, que l'on prendrait tous les problèmes à bras le corps pour essayer de les régler. Puis de semaine en semaine, je me suis demandé pourquoi nous étions là à discuter, rêver, échanger. Je me disais qu'il y avait des choses plus urgentes à faire. Finalement, aujourd'hui je songe, est-ce que ce n'est pas cela les choses urgentes ? Se rencontrer, échanger ensemble sur notre quartier, apprendre à le connaître, à se connaître. Regarder notre quartier à travers les yeux des autres, les artistes, les nouveaux habitants, les gens de passage. Et y voir de la poésie, du charme, des lieux d'aventure, des gens d'exception. Et j'ai compris que c'est en tissant cette toile de convivialité, de solidarité et de partage que l'on pourra répondre à nos difficultés quotidiennes. Que notre quartier est comme une plante délaissée et rabougrie, que l'on doit nourrir, protéger, soigner et surtout aimer pour qu'elle s'épanouisse et pousse vers la lumière. Signé Anne.
Merci Jean. Ouais. Et je retiens cette phrase. Est-ce que ce n'est pas cela les choses urgentes, se rencontrer, échanger ensemble sur notre quartier ? On trouve aussi sur le blog une courte vidéo faite à plusieurs mains qui présente l'environnement du collectif. J'y ai pioché quelques phrases comme « À la Belle de Mai, il y a des murs en couleurs qui racontent qu'ici, le monde entier est chez lui. À la Belle de Mai, il y a des fêtes, des gamins qui tapent sur les tambours. À la Belle de Mai, les brouettes servent à transporter des livres et des projets pour mieux vivre ensemble. À la Belle de Mai, on rêve en utopie. On fait, on fabrique, on crée, on imagine, on vit quoi. » Alors, est-ce que vous pouvez nous dire... Marceline, quels sont les projets que transportent les brouettes? Quelles sont les actions qui permettent de favoriser les échanges, le partage, la convivialité?
Les projets sont déjà des idées pour récolter des envies des habitants à travers des rencontres. Le projet, c'est plus d'avoir aussi une bibliothèque à la Belle de Mai pour pouvoir transmettre le savoir aux populations les plus démunies de Marseille et aux enfants qui n'ont pas accès à la lecture.
Alors justement, donc ouais. vous avez plusieurs actions menées. Vous avez eu notamment... alors on va revenir justement à la bibliothèque. Avant ça, vous aviez mené une action aussi pour avoir un transport de nuit entre le quartier de la Belle de Mai et le centre-ville qui n'était pas desservi. Donc votre action a permis d'avoir un bus de nuit. Vous avez aussi... vous faites aussi de la végétalisation de rue.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, comme vous le disiez, une de vos premières actions, ça a été de faire du troc de livres pour pouvoir permettre apporter justement cette lecture aux gens du quartier. Ils étaient donc le quartier qui n'a pas de bibliothèque. Avant de venir, parce que vous avez mis aussi une pétition en ligne, juste un petit détail. Donc, le 3e arrondissement de Marseille, comme vous le disiez, Marceline, compte 45 000 habitants. Et à Marseille, la question des bibliothèques, c'est une question qui est très sensible. Il y a eu une forte tension l'année dernière qui est liée à la restriction des amplitudes horaires des bibliothèques et au fait que Marseille manque cruellement de bibliothèques. Parce que si la Belle de Mai n'a pas de bibliothèque, il faut quand même rappeler que Marseille, qui est une ville de 850 000 habitants, ne dispose que de 8 bibliothèque municipale. Un rapport de la Chambre régionale des comptes sorti en 2013 aborde cette question en affirmant que pour approcher une couverture comparable par habitant à celle de Paris, Lyon ou Lille, Marseille aurait en effet à tripler le nombre de ses bibliothèques. Jean, quelle est la posture de la mairie face à votre demande de bibliothèque pour le quartier de la Belle de Mai? Donc, je le rappelle, comme disait Marceline, il y a une pétition en ligne en ce moment pour que la Belle de Mai dispose d'une bibliothèque.
Ben, disons qu'on n'a pas trop de contact, vraiment. Disons qu'après, voilà, c'est toujours des moments où, bon, où ils nous disent, oui, il y aura une bibliothèque. Bon, disons qu'il y a eu le... Comment dirais-je, il y a des projets qui se feront ou qui ne se feront pas, c'est-à-dire que notamment autour du centre social de Léo Lagrange, quoi, qui devait déménager, qui devait laisser place. Donc les locaux devaient laisser place, plus ou moins. Et ils reprendraient peut-être les locaux, enfin voilà, pour une bibliothèque, enfin, pour un endroit pour des personnes âgées. Enfin,
donc peut-être voilà, des perspectives, mais rien de très voilà, clair non, quoi, pour l'instant. D'accord.
Très clair.
Et donc, pour l'instant, pour parer à cette grande lacune, vous mettez en place ce troc des livres, comme le disait Marceline, les premiers samedis de chaque mois. D'ailleurs, en ce moment même, il doit y avoir normalement un troc de livres sur la place Cadenas à la Belle de Mai. Qui participe à ces trocs de livres? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui viennent? Est-ce que vous avez vos habitués, Jean, Marceline, Jean?
Ben, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le collectif, il y a un noyau dur, on va dire. Et après, bon, il y a des gens qui, selon les projets, qui se rattachent, quoi. Voilà, donc, on est aidé par... Enfin, si vous voulez, au niveau de la bibliothèque, on est aidé par la Friche, qui nous prête un local pour stocker les livres.
Oui. Mais quand vous, vous proposez, quand vous faites le troc là, dans la rue, sur la place Cadenin, donc j'imagine qu'il y a des badauds qui passent, des curieux. Voilà, oui. Est-ce que vous avez vos... Marceline, est-ce que vous avez vos habitués qui viennent régulièrement qui, voilà, c'est un rendez-vous pour eux important, et ils viennent. Comment ça se passe? Est-ce que ça change? Est-ce que s'il y a différentes, une diversité de générations, des jeunes, des vieux, enfin comment ça...
Oui, il y a une différence de génération. Il y a des jeunes et des vieux. Il y a des gens qui empruntent les livres, qui nous ramènent. On reçoit aussi en même temps le premier samedi du mois, on reçoit aussi des livres par des habitants qui nous amènent. Donc, ça fait énormément un échange.
Vous avez lancé une initiative qui s'appelle « Un livre, un habitant ». Je trouvais ça sympa. Alors, j'ai vu une seule vidéo. L'ambition affichée, c'est de faire des courtes vidéos d'habitants qui présentent un livre qu'ils ont aimé. Et du coup, comme j'ai vu qu'une seule vidéo, je me suis demandé où est-ce qu'on en était, cette initiative. Est-ce que ça se poursuit Jean?
Ben non, pas trop. Malheureusement, disons qu'on parle... Enfin, j'en profiterai pour parler aussi de la TV, pas...
C'est pas participative, ok.
Du troisième, quoi, auquel on participe.
Bah, allez-y, c'est l'occasion.
Et dire aussi que, bon, en fin de compte, le collectif n'est pas centré que sur lui-même, quoi. C'est assez, à dire, on participe à beaucoup d'actions dans notre association, quoi. Enfin, tout ce qui se fait dans le quartier est bon pour nous, quoi. On va dire, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est la télé participative et... On participe pas mal, on essaye.
La télé participative qui est menée par les Têtes de l'Art, c'est ça?
Les Têtes de l'Art,
ouais, c'est ça.
Ils sont en train de faire un crowdfunding en ce moment, donc pour augmenter leurs investissements, pour acheter du matériel, pour pouvoir après justement mettre à disposition cet outil de médias citoyens auprès des habitants.
Merci Pascal. Revenons donc à ce troc de livres. Moi, en découvrant plus précisément la façon dont vous dérouliez cette initiative, je pensais au livre d'Alice Fernet qui s'appelle Grâce et dénuement d'Alice Fernet, qui raconte l'histoire d'une femme qui arrive à créer un lien avec une communauté gitane grâce aux lectures régulières qu'elle fait aux enfants dans les campements. La création de liens à travers la lecture, finalement, c'est ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a des séances de lecture qui sont organisées pour les personnes qui ne savent pas lire? Et je pensais notamment à des actions que peut faire ATD Quart Monde, des bibliothèques de rue. Est-ce que vous êtes en lien avec ATD Quart Monde, ça?
Non, pas du tout. Non, okay. C'est vrai que ça, c'est pas le... c'est pas un truc qu'on a abordé.
Mais par contre, vous faites des séances de lecture, hein, il me semble, hein, quand même. J'ai vu ça.
Ben, c'est-à-dire, oui, on a fait des séances on a fait des séances de lecture. On fait aussi, enfin... Enfin, ça nous est arrivé qu'une fois, mais bon, c'était un écrivain cubain qui était... une écrivaine cubaine qui était à la Friche. Et avec elle, on avait fait tout pour des séances de lecture autour de ses livres, tout ça, enfin là. Disons que c'est... Là, voilà, il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire, bah, moi, j'aimerais bien faire ça, et si ça veut... Et si les gens sont d'accord, ben voilà, ça part comme ça, quoi. C'est... Okay. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est un collectif.
C'est intuitif et voilà. Spontané. Intuitif et spontané.
Voilà, voilà.
Okay. Dites-moi, voilà. Juste pour clore sur cet aspect de livre, donc, il y a une pétition qui est en ligne, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et par contre, j'ai vu, alors, en fait, ce que vous souhaiteriez, en fait, vous rêvez d'une supra-bibliothèque. Alors, ouais. C'est quoi, cette supra-bibliothèque? Marceline, allez-y.
Bon, l'idée, c'est juste pour avoir comme une médiathèque, une bibliothèque là où les jeunes peuvent passer, faire la lecture, faire des rencontres. Ça sera un lieu d'échange. On rêve d'avoir ça. Bon, c'est vrai qu'on rêve d'avoir plein de choses, mais malheureusement...
C'est bien, il faut rêver, c'est important.
Et on espère. Et il faut dire aussi qu'à la Belle de Mai, il n'y a pas seulement que le problème de la bibliothèque, on a aussi le problème des écoles et manque de place pour les élèves. Ils n'ont pas assez de chaises, pas assez de tables pour étudier. Bon, des fois, quand j'entends parler de ça, ça me fait rigoler. Je me suis dit, ah, mais quand même, on est en France, mais on n'est pas en Afrique. Si c'est en Afrique, on va se permettre. On dit qu'on n'a pas ces moyens. Et malheureusement, c'est la réalité. Donc, on se bat pour ça parce que quand même, l'école, c'est l'avenir de demain.
J'en profite, Marceline, pour dire que vous êtes très impliquée dans le quartier puisque vous faites partie aussi du conseil citoyen du quartier.
Oui, c'est ça.
J'ai vu enfin que vous aviez une action ou alors une intention d'action ou un début d'action qui s'appelle « Verger dans la ville » et qui consiste à mettre en lien des propriétaires d'arbres fruitiers avec des bénévoles qui pourraient cueillir ces fruits. Est-ce que ce projet est toujours en cours?
Ben, je ne sais pas trop. Enfin, moi, je ne suis pas trop au courant. Mais je pense qu'il y a eu des actions au niveau. Mais c'est plus au cas par cas, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si un propriétaire qui veut bien, voilà, on essaye de
mettre en lien.
Voilà, ouais.
En tout cas, ça me fait penser aux Incroyables Comestibles, mouvement qui nous vient de Grande-Bretagne et qui commence à faire des émules en France. D'ailleurs, juste après le morceau qui vient, on prend l'antenne avec Lola Gaillet des Incroyables Comestibles à Arles. Merci de votre témoignage, Jean Lombard et Marceline Dinsen du collectif Brouette et compagnie. Et donc, on rappelle qu'aujourd'hui même a lieu, normalement, sur la place Cadenas de la Belle de Mai, un troc de livres. Et le morceau qui vient, c'est Waster du groupe Sherpa avec 3 H, duo pétillant composé de Croft Savis et John Pantoufle, qui nous viennent de pas loin, de Montpellier exactement.
And I'm just getting blaster. Rain on the road is lost in the rain. Hell in a waster, not a talking waster. You're wasting time, but I'm losing Kester. Do you run a roll? Oh, you watch as the rain. Hold me tired.
Écoutez le dernier album de Sherpa avec 3 H, c'est sur bandcamp.com. On est maintenant avec Lola Gaillet qui se trouve à Arles. Bonjour Lola.
Oui, bonjour.
Lola, vous faites partie des Incroyables Comestibles. Alors les Incroyables Comestibles, ce n'est pas la dernière série de Marvel. C'est un mouvement qui nous vient directement du nord de l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste?
Alors les Incroyables Comestibles, c'est-à-dire qu'on met des légumes, on plante des légumes dans les villes en fait.
Et c'est quoi le but de ce mouvement? Pourquoi est-ce qu'on plante des légumes dans les villes?
Donc on plante des légumes dans les villes, d'une part pour créer de l'abondance, tout le monde puisse avoir à manger. D'une autre part pour que les gens réagissent un peu et se disent « Ah oui, les légumes, ça existe ». D'une autre part pour créer du lien entre les gens, pour que les gens ils puissent regarder et se dire « Ah bah ouais, tiens, moi aussi je peux faire pareil. On va planter une jardinière tous ensemble ». Quand on a une jardinière, il y a plusieurs personnes qui vont s'en occuper en général parce qu'il faut que ce soit quand même un petit peu, il faut s'en occuper quoi. Donc il y a les voisins qui se regroupent autour d'une jardinière, donc ils vont échanger, ils vont dire ah ben moi je vais planter ça, moi je vais planter ça, voilà, ils vont se parler.
Combien est-ce qu'il y a de groupes locaux en France d'incroyables comestibles?
Je crois qu'il y a plus de 1200 villes qui font les incroyables comestibles.
1200, oui, d'accord. Votre groupe local a été créé en 2015. Et alors, on a l'impression que vous faites déjà des tas de choses. Alors, votre charte commence par « Ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne ». Les incroyables comestibles est une démarche participative, citoyenne et solidaire, issue d'un élan volontaire de don et de partage. Alors, on donne et on partage des légumes. Alors, qui donne à qui? Qui plante et qui cueille, en gros?
Eh bien, qui veut plante, qui veut récolte et qui veut arrose.
Mais alors, ça veut dire quoi quand, donc, si je croise, moi, un bac de légumes dans la rue, je peux passer et me servir, par exemple ?
C'est ça, voilà.
D'accord.
Alors, en général, c'est marqué « Merci de ne prendre que les fruits ou les fleurs ou les feuilles, ne pas arracher la plante. » Voilà. Après, en fait, ça amène à beaucoup de respect au début. Il peut y avoir quelques jardinières qui sont un petit peu vandalisées ou le temps que les gens comprennent.
Mm-hmm.
Mais en général, ça amène beaucoup de respect et les gens sont interloqués et vont plus s'en occuper que détruire, en fait. Ça amène plus de respect, de civisme entre les gens, en fait.
Et du coup, est-ce que ça s'est concentré dans le centre-ville d'Arles ou est-ce que ça s'est répandu vraiment partout dans Arles, cette initiative?
En fait, ça fait que un an qu'on a commencé.
Oui, oui.
On a quelques jardinières. On peut pas dire qu'il y en ait partout. Hein. On va voir exactement. Vous pouvez voir sur le site Plant Catching, en fait.
Alors, du coup, je veux bien que vous donniez le nom du site, mais on remettra toutes les informations sur le site de la radio. Hein. Donc, le nom du site, c'est
arles.lesincroyablescomestibles.fr.
Mm-hmm.
Et donc, sur ce site, on a un renvoi sur le site de Plant Catching. Où c'est un site où on peut échanger. On peut voir où sont les jardinières, en fait. On peut échanger tout type de plantes ou du matériel de jardinage.
Oui. Alors justement, comment ça s'organise ce troc de plantes ? Est-ce que c'est des rendez-vous réguliers ?
En fait, c'est un petit peu, ça dépend. C'est toujours différent. On va participer à un troc de plantes, par exemple. La semaine dernière, on était à la foire aux plantes. Donc en fait, on donnait aux gens, on fait fabriquer des petits jardins dans des grosses boîtes de conserve pour les enfants ou pour les adultes. Des fois, on donne des plantes comme ça à quelqu'un qui veut participer au mouvement, qui a déjà une jardinière. Des fois, il y a des gens qui ont des jardins et qui font participer au mouvement ou qui participent pas, on leur donne des plantes. En fait, on essaye de faire des plantes, d'en récupérer, des gens nous en donnent et puis on s'organise, quoi, soit entre nous, soit, ceux qui veulent.
Et j'ai vu que vous étiez soutenue par la mairie d'Arles. Comment est-ce qu'elle vous soutient concrètement?
Alors, concrètement, déjà, ils nous donnent des autorisations pour pouvoir mettre les jardinières. Ils nous aident matériellement, en fait. Ils nous photocopient les tracts, déjà, c'est pas mal. Ils nous donnent un peu de bâche, un petit peu de dépôt, un peu de terre, un peu de ce qu'on a besoin, en fait. Bon, ils nous donnent pas, ils nous soutiennent pas financièrement, à part pour la foire aux plantes, mais voilà, ils font ce qu'ils peuvent, en fait, avec ce qu'ils ont.
Et c'est déjà pas mal.
En fait, il faut savoir que la mairie, elle invite quand même tous les Arlésiens à végétaliser l'espace urbain. Donc, déjà, c'est...
D'accord, donc une démarche très volontaire de la part de la mairie.
Ouais. Voilà.
Et si d'autres Arlésiens veulent vous rejoindre, donc ils vous contactent sur le site avec l'adresse qu'on va donner, c'est ça? Merci beaucoup Lola Gaillet pour votre témoignage. Donc on mettra toutes les informations nécessaires sur le site de la radio et puis on invite tous ceux qui veulent créer des incroyables comestibles à se connecter sur le site national, hein, c'est ça qui donne les démarches.
On a un Facebook aussi. Si
vous... Et maintenant place à la chronique d'Emmanuel Chouin.
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est du dense, du lourd. J'invite les auditeurs à consulter sur le net la discrète revue du MOS, une référence dans le monde de la recherche universitaire. Cette revue souhaite être un lieu de rencontre et d'échange entre le monde universitaire et la société civile. Dans une société dominée par l'information, c'est un fait suffisamment rare pour le mentionner. Trop souvent, nous subissons le filtre des experts journalistes pour accéder à la pensée vivante en train de se construire. La revue du MOS, créée par des chercheurs en 1981, ouvre ses colonnes aussi bien à des étudiants, des praticiens, aux côtés de chercheurs en sciences sociales de renommée internationale. Vous y trouverez donc des articles de fond, des débats, des billets d'humeur et la fécondité de la controverse. Mais l'acronyme MOS est loin d'être anodin. Il signifie « mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales ». Les penseurs qui commettent des articles sont critiques face à l'hégémonie de l'économisme dans les sciences sociales.
Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par utilitarisme ?
Bien sûr. Alima, tu évoquais dans ton édito Patrick Vivray et la nécessité de reconsidérer la richesse. C'est à la conception utilitariste de la richesse que celui-ci s'oppose. La richesse serait ce qui a de la valeur sur le marché, celle qui peut s'estimer en argent. Le MOS, quant à lui, cherche à desserrer l'étau de l'imaginaire marchand et financier. Ces politiques économiques qui nous imposent la croissance dans une planète aux contours limités. et de cause à effet, la revue est très présente dans les débats concernant les indicateurs alternatifs d'évaluation de la richesse.
Mauss, c'est pas aussi le nom de quelqu'un, Mauss ?
Bien vu, Pascal. Cet acronyme est aussi un hommage à Marcel Mauss, neveu d'Émile Durkheim et père de l'ethnologie française. Dans le sillage de son célèbre essai sur le don, rédigé en 1924, la revue accorde au don une place fondamentale. Quand on parle de richesse, le paradigme du don n'est pas loin. Dans son essai, Marcel Mauss s'est attaché à étudier le don dans les sociétés archaïques, celles dont les rapports sociaux n'étaient pas encore régulés par les contrats et les lois. L'analyse de Mauss, Marcel, a mis en lumière deux caractéristiques à propos du don, toujours d'actualité. D'une part, le don repose sur la triple obligation du donner, recevoir et rendre. Celui qui a reçu ou su recevoir sera à son tour dans l'obligation de donner, ce qui est la seule manière de rendre. Ce principe structure l'organisation des relations sociales et permettait de tisser des relations ou des alliances durables entre membres d'une même communauté ou bien entre communautés différentes. Car la temporalité du donner et du rendre ne s'inscrit pas dans la simultanéité. Une façon de gérer les conflits ou les haines. On parle alors de générosité obligée. Mais d'autre part, le don, pour Marcel Mauss, est un fait social total. Les motifs de l'action ne peuvent pas être dissociés. Ils recouvrent toutes les dimensions de la vie sociale, symbolique, religieuse, économique. L'intérêt de donner ne sera pas simplement économique, don intéressé, ou symbolique, don obligé par le besoin de reconnaissance ou de légitimité, par exemple. Pour le sociologue Alain Caillé, directeur et fondateur de la revue du Mauss, il faut apprendre à dépasser l'idée que dans toutes nos actions, ou que toutes nos actions s'expliquent par l'intérêt individuel, vision économique des rapports sociaux. Dans tous nos actes, nous dit-il, il entre une part d'intérêt pour soi, mais aussi une part d'intérêt pour autrui. Dans tous nos actes, seconde opposition, une part d'obligation et de contrainte, mais aussi une part de créativité et de liberté. Et j'aimerais clôturer cette chronique par une nouvelle citation d'Alain Caillé, extraite de son ouvrage « L'idée même de richesse », dont je recommande la lecture. La voilà. « Et riche, le pays qui permet au plus grand nombre de ses citoyens de recevoir en percevant qu'ils reçoivent effectivement un don et non pas un dû, et qui leur permet de développer leur capacité d'agir, de donner et de s'adonner. »
Merci Emmanuel. Alors, on a une petite minute là pour nous faire l'agenda du mois d'avril. Alors, le 12 avril à 18h30, c'est le prochain atelier vers une coopérative intégrale dont on vous avait déjà parlé dans un précédent numéro de Métamorphose. Le lieu est à préciser, mais vous avez plus d'infos sur le site m-v-t.info. Le 14 avril à 20h, il y aura une projection au Vidéodrome 2, 49 Cours Julien à Marseille. Donc, projection organisée par Peuple et Culture en partenariat avec la plateforme et l'équipe de Festidonie dans le cadre du festival, justement, Festidonie, et de notre thématique mensuelle sur l'échange et le don.
Et donc, le 30 avril aura lieu Festidonie au centre social du Grand Saint-Antoine, au plan d'Aou. Le 29 et le 30 avril, ce même week-end, auront lieu deux festivals. Le Festival des Petits Lieux, qui aura lieu, lui, dans le centre de Marseille, et avec une trentaine de petits lieux qui participent et qui ouvrent leurs portes. Une aventure, notamment le vendredi soir, pour découvrir tous ces lieux. Et le Festival Quartier Libre, donc, qui lui aura lieu aussi le 29 et 30 avril à La Rose, à Valplan. Voilà.
Marceline me fait passer une petite annonce aussi rapidement. Donc, il y a aussi, dans le cadre du conseil citoyen du quartier, hein, un appel à candidature pour le collège habitant du conseil citoyen. Eh bien, merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités et à toute l'équipe, hein, Pascal, Emmanuel et JB à la technique.
Merci Alima, à toi.
On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 7e numéro de Métamorphose.
À la prochaine.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.